avec des colorations et des guirlandes, etc. Au moment, aux bonnes périodes, ce serait déjà génial. Hein.
Oui, c'est vrai que ce serait pas plus mal. On va entendre le témoignage de Laetitia. Laetitia, elle nous appelle de Breteil, en Ille-et-Vilaine. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Laetitia, est-ce que vous fêtez Noël en avance? Est-ce que vous commencez en avance vos festivités de Noël? Ou est-ce que pour vous, Noël, c'est aux alentours du 25 décembre, quoi?
Noël, c'est début décembre, quoi. Fin novembre, début décembre, quoi. Où on commence le calendrier de l'Avent, et voilà.
Et est-ce que pour le coup, Laetitia, vous faites votre sapin aussi début décembre, ou est-ce que vous avancez un petit peu?
Non, le premier week-end de décembre, c'est la tradition à la maison.
Et vos cadeaux, Laetitia, vous les faites quand?
Je les fais fin novembre, début décembre, après, voilà.
Et pourquoi si tôt? Enfin, je veux dire, fin novembre, c'est quand même un mois avant, parce que c'est moins cher?
Pour le budget, en fait, pour acheter à tout le monde, et voilà, quoi. Et puis pouvoir faire plaisir, parce que quand on a des ados, c'est souvent à la dernière minute.
Ouais.
Et voilà.
Oui, donc en fait, vous anticipez sur quelques cadeaux. Mais là, autour de la table, personne n'a jamais fait un cadeau, même en été, en se disant, bah tiens, vous trouvez un truc, par exemple, dans une braderie, et vous mais dites, bah tiens, ça servira pour Noël. Alors, tu vois, ça veut dire qu'on pense à Noël dès l'été.
Mais oui, mais non, c'est juste que c'est différent. Il y a les gens qui font leur calendrier de l'avant à la main, etc. Les gens qui trouvent un petit cadeau très sympa et qui prévoit un peu à l'avance. C'est pas ça que je déplore. Ce que je déplore, c'est Noël partout dans l'espace public, Noël dans les magasins, pour vampiriser commercialement l'esprit de Noël et les valeurs de Noël, de partage, de générosité, voilà, sur un aspect commercial des choses. Les gens qui prévoient à l'avance, c'est très bien.
Mais alors, Perico, les gars, on va parler un peu de nourriture. On sait que ça coûte très cher à Noël. Le foie gras explose, le saumon, les huîtres. Alors évidemment, on va pas acheter ces huîtres en octobre, ça je l'entends. Mais est-ce que quand même, il y a des petites astuces pour faire des économies au réveillon, si on achète sa dinde et qu'on la congèle, si on achète son foie gras et qu'on le congèle, ou alors est-ce qu'il faut tout acheter tout frais?
Non, non. Vous ouvrez une porte terrifiante.
Mais bien sûr, je sais, Perico.
Et que, après tout, si je n'ai pas les moyens de m'offrir un produit dit de luxe à Noël, si les méthodes de conservation me permettent de l'acheter 30 ou 40% moins cher au mois de septembre, je ne vais pas me l'interdire.
Ah, donc c'est moins cher?
Ah, ben c'est forcément moins cher, puisqu'il y a un racket au moment de Noël. On double tout.
C'est ça.
Parce qu'il y a une demande plus forte. C'est la loi du marché, Estelle. Hein. C'est la loi du libéralisme que défend Juliette. Voilà. Donc, le système, voilà. Ils en profitent pour s'en foutre plein les poches avec le Père Noël. Voilà. Et c'est vrai que d'acheter avant, voilà, on peut même préparer le plat et le congeler. On peut même faire un très bon plat.
On va peut-être pas quand même.
Attendez.
On va pas préparer ça.
Non, il y a des plats que la congélation améliore.
On va pas préparer une dinde au marron en octobre pour décembre. Après, c'est pas possible.
Attendez, je parlais de Noël de l'année d'après, pas celle-là. Moi, là, je suis sur 2026. Là, les enfants, je suis 2025, c'est depuis longtemps.
Merci beaucoup, Laetitia, d'avoir été avec nous. On est également en ligne avec Amandine, qui nous appelle du Var. On rappelle que les décorations de Noël ont été mises à Toulon, hein, dans le Var.
Mais installé, ouais.
Oui, mais quand même installé dès la mi-septembre. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Amandine, est-ce que vous aimez cette période de Noël, ou est-ce que ça vous angoisse? On sait qu'il y a plein de gens qui sont angoissés par Noël.
Alors non, moi c'est une période que j'adore. Excusez-moi, ça fait bizarre de vous entendre.
Nous aussi, ça nous fait plaisir, Amandine. C'est la première fois en plus.
Oui. Non, c'est une période qui est très importante pour moi. Je décore toute ma maison, toute ma façade.
D'accord, mais on vous sent très émue.
Oui, excusez-moi.
Mais alors, c'est quoi cette émotion, Amandine?
Non, c'est de vous entendre, de vous avoir en direct.
Mais pour nous aussi, allez-y.
Oh, c'est mignon, Amandine, ça nous fait plaisir.
C'est un peu son Noël à elle.
Arrête. Voilà, c'est Noël avant l'heure, Amandine. Non, mais je rigole.
Noël, c'est une période assez magique. On se retrouve avec des amis. Je fabrique beaucoup de choses, ça fait des années. Pour la famille, tout ça, on fabrique des paniers garnis. On fait nous-mêmes. Je décore ma façade dans mon village. On organise.
Attendez, je m'arrête là-dessus, Amandine. Vous décorez votre façade, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, on met des décorations, des guirlandes. J'ai fabriqué des rideaux avec un sapin à l'intérieur.
Vous êtes couturière en plus, Amandine.
Oui. Donc j'essaye de faire pas mal de choses. Et puis voilà, chaque soir de décembre, en fait, dans mon village, on organise les fenêtres de l'Avent, et chaque soir, on va chez quelqu'un, chez un commerçant,
un habitant. On chante les chansons de Noël et puis on boit un coup, on mange un petit bout ensemble.
C'est génial.
C'est un moment qui est super.
Mais ça, c'est génial. Mais ça, vous faites ça qu'en décembre, à mon avis. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas commencer à aller chez décembre. Les gens en septembre. Enfin, je veux dire...
Non, ça commence le 1er décembre, mais il y a toute une préparation à faire avant.
Donc, c'est-à-dire
pour décorer, moi, l'année dernière, pour décorer entre la façade et l'intérieur de la maison, j'ai mis 3 semaines.
Ah oui, ça, vous êtes
Et puis, il y a tout ce qu'il y a à préparer avant. J'ai l'aide de mon mari et de mes enfants. On a découpé des planches pour faire des bonhommes de neige, des sapins en bois, tout ça. Et après, qu'on illumine.
C'est génial.
Bah écoutez, mais bravo, Amandine. Moi, je trouve ça génial, voilà, d'être dans cette féerie de Noël bien avant. Et on sent Amandine hyper heureuse. En tout cas, nous, ça nous a fait super plaisir de vous avoir, Amandine.
Voilà. Et puis vous. Merci à vous.
Et vous n'hésitez pas, vous nous rappelez. On va beaucoup parler de Noël dans cette émission. De toute façon, on aura plein de thèmes Noël. Donc, vous n'hésitez pas à intervenir, bien sûr. Merci beaucoup, merci Amandine. Et Amandine n'est pas la seule à nous avoir écrit sur l'appli RMC, Rémi.
Oui, alors tout le monde ne partage pas son enthousiasme.
Oui, oui. Tout
est décalé, nous dit Gislaine. Les soldes d'été arrivent alors qu'on sort juste les maillots de bain. J'habite en Ardèche. Dès fin juillet, il devient difficile de trouver des articles de piscine dont on a encore besoin. Dès le mois d'août, les articles de rentrée m'ont toujours démoralisé. Moi, j'en ai ras-le-bol. Okay. Jérémy nous dit non, mais ça saoule, c'était les films de Noël. Sur Canal, à la demande, j'ai cherché Papy fait de la résistance. Le film n'y est même plus à la
moi
place.
Aussi, je
une dizaine de téléfilms de Noël, les préparatifs de Noël en novembre. Oh, il fait 20 degrés. Il fait 20 degrés en ce moment et on se tape déjà les films.
Alors, je sais pas chez qui il fait 20 degrés, mais pas chez nous en tout cas. Enfin, pas
il fait 20 degrés.
Mais où?
Ah bah dehors, il fait 20 degrés.
Bah pas là.
Non, il fait pas 20 degrés là.
Oui, mais il fait 20 degrés, mais en ressenti.
En ressenti.
Mais excuse-moi, mais Rémi, mais dans nos cœurs, en ce moment, il ne fait pas 20 degrés.
Non, c'est vrai.
Non,
c'est
nos cœurs sont glacés. Il y a les intempéries, il fait gris.
J'ai glissé ce matin en arrivant sur les verglas.
Bon, arrêtez de dire n'importe quoi. Patricia Mosdan est notre invitée. Elle est psychologue clinicienne et psychanalyste. Qu'est-ce que vous pensez des témoignages qu'on a entendus, Patricia? On sent quand même qu'il y a des gens pour qui Noël, c'est très très important.
Exactement. Oui, c'est vrai que c'est super. Et puis là, on entendait sur le village d'accueillir des gens. Enfin, je trouve ça génial. Moi, je suis pas là pour effectivement critiquer ou dire quoi que ce soit. À partir du moment où les gens sont heureux, tant mieux.
Mais oui.
C'est vrai qu'il y a le côté commercial, mais c'est vrai que on sait plus qui est catholique, qui n'est pas. On a entendu des appels à pas fêter Noël d'un autre côté. Donc, à partir du moment où c'est vrai qu'on a eu un temps, et puis ça dépend où on est, mais pas toujours très heureux. La politique n'est pas géniale, que tout le monde depuis Covid est un peu recroquevillé sur soi. C'est vrai que plus il y a de festivités, plus il y a de gens qui se réunissent, et plus il y a de gens qui font la fête, et plus il y a de lumière, et plus c'est joyeux, meilleur c'est pour moral de tout le monde. C'est vrai, de toute façon.
Ah voilà, vous y venez, Patricia. Vous aussi, vous allez faire vos rideaux de Noël. Vous verrez là, dès ce week-end, vous allez décorer votre façade. Vous allez voir,
exactement.
Patricia.
J'ai déjà acheté des cadeaux en solde, des machins et tout. Attention,
aussi.
Ouais, tout à fait.
Ben oui, ben voilà.
Je vois au fur et à mesure, j'achète.
Ben là, tout à l'heure, il y a une maquilleuse qui me disait que, en fait, elle avait demandé à toute sa famille de donner sa liste de Noël avant le Black Friday. Parce que vous faites de grosses économies, évidemment. Merci Patricia Mosdan, en tout cas, d'avoir été notre invitée. Alors, Rémi, on a posé une question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Et je crois qu'on s'est un peu trompé sur la question. C'est pas possible. Parce que je crois que la question était, faut-il avancer Noël? Bon, bah, évidemment, c'était pas Noël. Enfin, on n'allait pas fêter Noël le 12 octobre. C'était les festivités de Noël. Et ça donne quoi?
Bah, c'est non pour 94% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Parce que la question, à mon avis, a été mal posée. Cela dit, faut-il avancer Noël? Ça, c'est sûr qu'on a ce résultat, et évidemment. Bon. Dans un instant.
C'est bon signe. C'est quand même bon signe, Estelle. Vous êtes d'accord?
Non, je sais pas. J'ai envie de quelque chose. J'ai envie de fête et de folie. Bah,
vous avez avancé Noël sur l'émission. J'ai bien vu que l'histoire du Venezuela, c'était le parfait prétexte pour déjà commencer à parler de Noël en octobre.
Paradoxe est que les historiens ont fait une étude exacte sur la naissance potentielle de Jésus-Christ par rapport au recensement de lui. Ça serait plutôt en octobre.
Bah, joyeux Noël alors.
Ah, bah alors, tu vois? Mais oui, on fait l'actu. Vous savez que je vous dise.
Tout le mois d'octobre, il y a tout le mois de novembre.
On change tout.
Tout le mois de décembre.
Et c'est pour ça qu'il faut bien trouver un truc, un palliatif.
Ah, mais t'es un fond à la fin.
Bah oui, bah justement. Alors que si c'était Noël, on fêterait pas un peu.
Non, mais ce qui est vrai, on pourrait garder qu'une date, la Saint-Sylvestre, par exemple, pas deux fêtes de suite. On garde la fin de l'année. Et puis on fait
Noël. On va regarder. Oh non, mais j'aime pas le 31 décembre. Non,
et on fait un Noël, un autre moment de l'année.
Bon, on verra.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Tous les soirs, entre 18h et 20h sur RMC, c'est Roten sans flamme, avec Jérôme Roten.
2 heures de débat foot, autour de l'actu du moment. Des invités d'exception, les analyses d'après-match, d'avant-match, avec la Dream Team Foot RMC.
Et pour détendre tout ça, Julien Cazard vous livre son journal du foot à sa façon.
Roten sans flamme, du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMC.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On va continuer Estelle Midi avec le chiffre du jour. 49% des Français envisagent de démissionner. Quête de sens, envie de flexibilité ou d'un salaire plus élevé. Les raisons de changer de métier sont multiples, mais toujours est-il, Rémi, que jamais les Français n'ont autant démissionné.
Oui, un taux de démission exceptionnellement élevé. D'après les chiffres du service statistique du ministère du Travail, la DARES, au troisième trimestre 2023, on dénombrait 517 900 démissions de salariés en CDI en France. C'est un record. Et même si le nombre est passé à 478 000 au premier trimestre 2024, en raison de la crise économique notamment, eh bien le chiffre reste quand même 2 fois plus élevé qu'il y a 10 ans à la même période. Mais d'après une étude réalisée par Luca, une société de solutions RH, il y a quand même pas mal de paradoxes. Si 49% des salariés français interrogés envisagent de changer de métier, il reste toutefois 61% à se déclarer satisfaits lorsqu'il s'agit d'évoquer leur vie professionnelle. Et même 64% se considèrent motivés dans leur travail. Et quand on les interroge sur ce qui les pousserait à changer de carrière, 73% d'entre eux invoquent des raisons personnelles, là où seulement 23% changeraient de métier par nécessité économique, alors que dans le même temps et dans la réalité, la première raison invoquée par ceux qui ont réellement démissionné, c'est quoi ? Le salaire.
Alors, seriez-vous prêt à changer de vie ? Je vais commencer avec vous, Emmanuel Dancourt. Est-ce que parfois vous parlez souvent de votre statut d'indépendante, vous dites que ça vous pèse ? Est-ce que justement vous seriez prête à tout envoyer valser et à faire totalement autre chose ?
Alors, de fait, je change 3 fois de vie par semaine, moi, puisque quand on est indépendant et notamment journaliste, on peut faire. Tenez, en début d'émission, je parlais de Mont en Sartou, il y a un festival de littérature incroyable là-bas. Mmh. Je suis animatrice littéraire depuis 3 ans. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis 20 ans, d'être animatrice littéraire. Puis après, je suis ici. C'est encore toute autre chose. Donc, c'est un métier qui saute aux apes lui-même. Donc voilà, après, est-ce que parfois on aimerait que ça ralentisse un petit peu plutôt que de faire 50 heures par semaine ? Oui, mais nous on est dans des métiers passion, je ne suis pas sûre qu'on soit les plus visés par cette enquête. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que ce qui est intéressant dans cette étude, je trouve qu'il se contredit beaucoup, et tu as bien fait de le dire Rémi, c'est que à la fois les gens veulent partir, mais pas partir, et donc ce qu'ils font, ils font du quiet quitting, c'est-à-dire qu'ils démissionnent, mais à l'intérieur de l'entreprise, ils se désengagent. C'est-à-dire
démission silencieuse.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont une feuille de poste, mais souvent on va bien plus loin que cette fiche de poste, on travaille plus, on s'engage plus, on fait un petit truc à côté, etc. Et maintenant, la plupart des gens, ils reviennent à cette fiche de poste en disant, maintenant, vous savez quoi, je vais faire exactement mon nombre d'heures et pas une minute de plus, je vais faire exactement l'émission qu'on me demande, mais pas une de plus, et je dis non au reste, et je gagne en tranquillité de vie, je récupère du temps pour mes enfants, pour ma vie privée, que sais-je. Et ça se fait beaucoup, sans forcément que les gens démissionnent derrière. Et c'est signe quand même de quelque chose, et encore plus depuis le Covid, alors là...
Mais est-ce que c'est le symbole aussi d'une société qui vit bien, le fait que les gens aient envie de démissionner pour autre chose de mieux, et la bougette, et ne reste pas sclérosée dans un seul et même métier, Fred ?
Ça veut dire aussi qu'en France, on a une très bonne formation, on a un crédit formation, que les entreprises accompagnent les gens, que la société, l'État accompagne les gens quand ils veulent changer. C'est pas possible dans beaucoup de pays, donc on est un pays quand même plutôt souple à ce niveau-là. Alors moi, j'ai beaucoup aimé quand on a reçu le petit mail ce matin... de Léa qui nous annonçait des sujets, parce que moi ça, je l'ai vécu ça, et je réfléchissais à ça. J'ai changé de vie 2 fois. La première fois quand je suis parti en Espagne, il y a 32 ans, donc ça fait 32 ans, mais en fait le grand changement c'est quand je suis revenu il y a 3 ans, parce que j'étais vraiment installé en Espagne. Il y a 32 ans j'ai débuté ma carrière, j'étais jeune, voilà. Le grand changement c'est de changer de vie à 51 ans.
C'est vrai.
Et quand je suis rentré, c'est-à-dire que j'étais correspondant, je faisais le foot, et là, je suis revenu, maintenant j'ai la chance d'être avec vous ici, avec toi Estelle. C'est un gros changement.
J'avais mes habitudes. T'as jamais regretté ?
Ah non. Je me dis que je suis rentré peut-être un peu trop tard.
D'accord.
Pas trop tard, mais j'aurais pu rentrer avant. Parce que je m'éclate tellement depuis que je suis rentré, je fais d'autres choses. En fait, je me mets plus en danger aujourd'hui. Je fais des nouvelles choses. Je m'étais installé dans une vie confortable, dure, beaucoup de travail, parce que le correspondant à l'étranger, c'est beaucoup de travail, mais finalement, j'avais beaucoup de repères, etc. J'étais bien installé. Aujourd'hui, voilà, je suis confronté à d'autres défis, etc. Donc, oui, c'est bien de changer de vie. Après, moi, j'ai une chance fabuleuse qui est aussi ma chance, et je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Quand on a une femme et a des enfants, ou un époux, mais quand il y a des gens qui dépendent de vous, vous avez des enfants, automatiquement, c'est plus difficile de prendre ce risque de changer de vie, surtout à 50 ans. Quoi.
Pierre Rondeau, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, tiens, je changerais bien de vie, je deviendrais bien, je n'importe quoi, agent immobilier dans toi, le ça. Sud-Ouest, non mais j'en sais rien.
Ça, c'est toi, Estelle, agent immobilier.
En assurance, en Bretagne, j'en sais rien.
Alors, je vais vous dire non, tout de suite. J'ai jamais eu ressenti ce besoin de devoir changer, de vouloir changer d'air, de faire autre chose. Parce que aussi, et c'est pour ça qu'effectivement, ces résultats au sondage sont assez contradictoires. C'est que d'un côté, moi, déjà, le chiffre 1 Français sur 2 qui voudrait quitter son travail, qui voudrait démissionner, qui voudrait changer d'air, je trouve ça énorme. Un Français sur deux, je trouve ça énorme. Et qu'en même temps, la plupart ont l'air de dire qu'ils aiment leur métier, qu'ils aiment leur travail, qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc il y a ce côté paradoxal de dire un sur deux veut partir, mais l'immense majorité aime son travail. Moi, j'ai le sentiment que si vous voulez changer d'air, faire autre chose, c'est que ce que vous faites actuellement, vous êtes allé au bout. Vous êtes allé au bout de la chose et ça ne vous complaît pas, ça ne vous satisfait pas. Vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites, donc il y a un besoin de changer. C'est pour ça que c'est paradoxal. Vous aimez votre travail, mais vous voulez changer. Moi, me concernant, j'ai pas envie de changer d'air parce que ce que je fais me satisfait pleinement. Pouvoir à la fois mêler des cours, de l'enseignement, des interventions dans les médias, c'est quelque chose que j'adore et j'aurais pas eu aucune volonté de changer. Si, à la rigueur, parce que ça fait longtemps, mais c'est mon jardin secret, que je fais du théâtre. Ouais. J'ai joué Shakespeare, par exemple, l'année dernière. Et si on me dit tu changes, bah pourquoi pas. Carrément comédien, mais j'en aurais pas le courage. Je le dis comme ça.
Oui, mais si quelqu'un te propose un rôle demain, là t'es capable de changer, c'est parce qu'on t'a pas proposé de rôle.
Oui. Là, oui, mais je vais jamais vous dire je démissionne pour être comédien.
Ah, oui, ça j'entends bien.
J'aurais jamais le courage.
Et si je peux me permettre, ce serait peut-être une mauvaise chose. Enfin, je veux dire, c'est un peu lâcher la croix pour l'ombre.
Oui,
mais bon,
oui.
Après, peut-être que ça marcherait.
Peut-être. Mais là, tu vois, c'est plus le côté.
Il y a quand même pas mal d'insécurité là-dedans.
Oui, c'est ça, en fait.
C'est marrant ce que tu dis. Excuse-moi de te couper, mais ce que tu dis, il n'y a pas d'enfant, t'es plus libre. Moi, mon rêve absolu, mais j'ai 4 enfants dont je finance toutes les études, ce serait. Dieu sait que j'adore être ici, tout ça, mais ce serait de tout arrêter pour enfin prendre le temps d'écrire et de publier. Mais dans ma contexte actuel, je l'ai même pas envisagé tellement c'est pas jouable avec 4 enfants dont je m'occupe.
Oui, puis les livres, ça rapporte pas beaucoup.
Hein. Ah bon, ça rapporte rien du tout.
Bah, sauf les best-sellers, mais bon, après.
Ah ouais, mais bon.
Ça, voilà. En tout cas, on a plein de témoignages de changement de vie sur l'appli RMC et au standard au 3216. On va prendre Pierre tout de suite qui nous appelle de l'Espinois dans le Pas-de-Calais et qui est en reconversion. Bonjour Pierre.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes.
Racontez-nous votre histoire, Pierre.
Eh bien écoutez, c'est un sujet qui m'est en plein dedans, comme on dit, puisque j'étais directeur d'hôtel jusqu'au mois de juin de cette année. Ouais. Et pendant 15 ans, j'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration, donc j'ai voyagé dans la France, dans le monde pour mon métier. C'est vrai que c'était un super. Et on m'a gentiment demandé de changer d'établissement, puisque voilà, mes patrons ont décidé de prendre une autre voie. Donc j'ai pris une claque, on va dire. Ouais. Bah, dans l'hôtellerie-restauration depuis 15 ans, je ne savais faire que ça, on va dire. Et puis voilà. Je suis un grand sportif amateur aussi, trail, ultra trail, triathlon, ouais. Cyclisme. Et j'ai une opportunité pour travailler pour les Jeux Olympiques, tout simplement, et les Jeux Paralympiques. Donc j'ai dit oui tout de suite. Je dis banco. J'ai dit c'est l'occasion de saisir cette opportunité. Mm-hmm. Et en fait, j'ai pris une claque. Et, cette opportunité s'est transformée en véritable éveil pour moi, en me disant bah en fait, je fais de l'hôtellerie-restauration, je suis directeur d'établissement, mais est-ce que j'ai encore envie de faire ça toute ma vie? Eh bien, la réponse est non, clairement.
D'accord.
Et, d'être au sein même de cette organisation des Jeux, c'était déjà une expérience folle et j'ai appris beaucoup d'autres choses. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que j'ai envie de faire, d'allier le côté plaisir de mes passions, mais aussi dans ma reconversion professionnelle. Donc voilà un petit peu mon histoire qui m'a un peu changé de vie en fait et qui m'a un peu tout chamboulé en fait.
Et là, vous êtes en formation en fait, Pierre, en reconversion en tout cas.
Ouais, je suis en reconversion, donc là je suis en bilan de compétences tout simplement, parce qu'on a la chance en France d'avoir beaucoup d'aides qui nous permettent voilà,
ça,
de nous éveiller et de rendre compte de ce qu'on a envie de faire. Et mon projet se conforte avec ce bilan de compétences complètement. Et donc là, bah, je suis en train de regarder un peu le marché du travail sur tout ce qui est l'événementiel sportif, ou bien par la suite, pourquoi pas, éventuellement, de créer ma boîte, éventuellement, hein, clairement, dans cette optique.
Pierre, vous avez une famille ? Des enfants, une épouse, un époux ?
Ouais, j'ai une compagne, mais effectivement, sinon j'ai pas d'enfants, donc c'est vrai que c'est plus facile aussi pour pouvoir être dans ce milieu de l'événementiel sportif. C'est vrai que c'est des métiers comme hôtellerie-restauration qui sont très prenants, effectivement.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est des métiers qui allient à la fois le côté symbolique de la passion, de l'épanouissement. Tout à l'heure, justement, j'entendais un de vos chroniqueurs qui parlait de l'épanouissement. Effectivement, quand on commence à traîner des pieds et à se dire, ouais, ça me fait un peu suer d'aller au boulot. Et ben, il faut se poser les bonnes questions. C'est sûr que dans cette optique-là, on peut se dire, bah voilà, il faut qu'on y aille et puis il faut qu'on prenne notre courage à deux mains. Même si on se met en difficulté, c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Mais je pense que c'est la meilleure des solutions, en tout cas.
Et en même temps, c'est pas plus mal de se mettre en danger. On en ressort souvent meilleur, quoi. Effectivement. Donc merci en tout cas, Pierre, d'avoir été avec nous. Et puis bon courage, voilà, pour votre deuxième vie, Pierre. On a beaucoup de messages sur l'appli RMC. Ça se passe bien ou pas ces changements de métier?
C'est de nombreux témoignages de personnes pour qui ça se passe bien. Apparemment, il y a Philippe qui nous dit: je suis passé de RH à infirmier. Je ne regrette absolument pas ce choix à 40 ans. Emma, j'ai démissionné en juin de la grande distribution. Maintenant, je suis en apprentissage en pâtisserie. J'ai 53 ans.
Ça marche.
Et puis Jules qui nous dit: grâce au confinement, j'ai changé de métier, fini la cuisine. Bonjour les vignes. Avec le recul, je regrette de ne pas être parti plus tôt.
Bon, Estelle, et toi alors?
Ah non, mais moi je pourrais faire mille choses, quoi. Il y a pas de
agent immobilier, moi je te verrais.
Non
bien.
Mais oui, mais après moi j'aime bien faire d'autres choses, mais en parallèle avec mon métier, moi j'ai toujours voulu faire ce métier, donc
voilà,
je suis là où je voulais être, mais le jour où je suis virée ou le jour où je suis à la retraite, mais je vais faire un milliard de trucs différents, ça c'est sûr. Jean-Claude Delgen est notre invité. Jean-Claude Delgen, il est président fondateur du cabinet Technologia, spécialisé dans l'étude de la vie en entreprise. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et merci d'être une nouvelle fois avec nous dans Estelle Midi. Ça nous a tous frappé ce chiffre quand même, un Français sur deux qui songe à démissionner dans les deux ans, ça paraît énorme.
Écoutez, il y a toujours eu des personnes qui aspiraient à évoluer au niveau professionnel, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a deux facteurs qui poussent à cela. Le premier, c'est que depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a une très profonde dégradation des conditions de travail en France. C'est pas moi qui le dis, hein, il y a différentes études européennes qui l'ont montré. Par exemple, l'étude Eurofound, qui a été réalisée à la fin 2022, a montré que la France était parmi les 33 pays analysés en Europe, si l'Europe élargie, hein, eh bien la France était au même niveau que l'Albanie, c'est-à-dire que 40% des Français sont avec un travail, ce qu'on appelle tendu, avec à courir dans l'urgence, à travailler vraiment dans des conditions difficiles. Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est ce qui s'est passé avec le confinement. En mars 2020, en fait, tout s'est arrêté et on a assisté à ce qu'on appelle une dysrythmie sociale. C'est-à-dire que les gens ont été désynchronisés des rythmes sociaux. Alors, cette désynchronisation a occasionné, bien sûr, un certain nombre de problèmes. Des gens qui ont perdu leurs repères, qui sont allés parfois en dépression. Mais surtout, elle a permis aux gens qui étaient dans des situations un peu tendues, un peu dans la routine, un peu dans le travail subi, de réfléchir à ce qu'ils voulaient faire. Et on a eu donc, à ce moment-là, 1 million de personnes qui ont quitté les grandes agglomérations pour se réfugier parfois en province, parfois au vert, parfois faire autre chose. On a eu donc une réflexion sur la valeur travail. C'est-à-dire qu'un grand nombre de personnes se sont dit: je ne peux pas continuer comme ça. Et elles ont pris connaissance, elles ont pris conscience, si vous voulez, du fait de l'arrêt, à un moment donné, du fait de la pandémie et du confinement. Elles ont pris conscience que leur vie avait beaucoup de valeur et que la vie professionnelle devait effectivement être revue à l'aune de l'importance qu'ils accordaient à leur vie qui se déroulait parfois trop difficile pour eux. Et vous avez donc une remise en question de la valeur travail, particulièrement chez les jeunes générations, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une exigence au travail et ça, si vous voulez, ça a inversé le rapport sur le marché du travail.
Hein,
c'est assez fabuleux. Ça a inversé puisque, par exemple, en 2022, dernier chiffre que je vous donne, on a eu 2 millions 500 000 personnes qui ont démissionné, qui étaient en contrat en CDI. C'est du jamais
c'est
vu.
C'est énorme. Ouais,
2 500 000, vous voyez. Donc, ça montre bien qu'il y a toute une réflexion. Alors, il y a ceux qui préparent encore leur départ. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui, grâce au télétravail, se sont éloignés, qui ne veulent absolument pas revenir dans des rythmes fous, dans la pollution urbaine, etc. Vous voyez.
Et donc, mais qui, de facto, ont changé de vie aussi.
Et voilà, et qui veulent changer ou qui ont changé de vie, oui. Alors il y a ceux qui changent d'endroit pour travailler et il y a ceux qui vont changer de vie, qui vont faire un autre job. Alors c'est très souvent lié. Par exemple, vous avez eu la DRH qui est intervenue, qui est devenue infirmière. Oui. Eh bien, par exemple, les métiers des DRH qui sont des métiers très difficiles, c'est le métier de DRH aujourd'hui où il y a le plus de burn-out, oui. Où il y a le plus.
Bah, on annonce que des mauvaises nouvelles, donc c'est vraiment.
Voilà,
c'est
voilà, tout à fait. Et puis c'est un travail où en fait. On n'a plus la possibilité d'être en position dialectique avec le dirigeant. Mmh. Auparavant, un bon DRH, c'est celui qui disait à son dirigeant, attention, là, on roule sur les trottoirs, attention, là, ça va pas, pour préserver les salariés. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Le bon DRH, il exécute ce qu'on lui dit, il est corporate. Et c'est donc, ça. Ce qui fait qu'il y a un vrai problème dans la qualité du travail ressenti par les DRH, un d'accord. Vrai malaise. Et donc, les gens quittent la profession en masse. C'est une profession qui est très touchée par les mal-être et donc et la reconversion qui a été évoquée tout à l'heure. Et c'est pareil pour tous les métiers tendus, en fait.
Alors, je voudrais juste qu'on prenne le témoignage de Thibaut. Thibaut, il nous appelle de Paris et il a une histoire assez particulière. Bonjour, Thibaut.
Bonjour à tous.
Bonjour. Alors, racontez-nous ce qui vous est arrivé, Thibaut.
Bah, en gros, moi, je bossais dans le marketing. Donc, j'ai fait toutes mes études en marketing. Je bossais dans le marketing. Un jour, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer un nouveau projet et ouvrir à terme un restaurant. Du coup, en gros, je me suis dit que ben, j'aimerais bien faire des pizzas, ouvrir une pizzeria, sauf que j'avais pas de connaissances. Donc, je suis allé bosser dans un restaurant.
C'est génial.
Je faisais le resto, je faisais des pizzas, je m'occupais du personnel, etc. Mais en fait, l'expérience s'est tellement mal passée que j'ai claqué la porte et je suis retourné à mes premiers amours, quoi.
Ah oui, d'accord. Donc, en fait, la pizzeria, ça n'a pas duré longtemps, Thibaut.
Non, j'ai fait six mois où, ben voilà, en fait, c'est vraiment un changement de vie total, mais je savais dans quoi je me lançais, quoi. On fait un peu une croix sur sa vie perso, surtout dans la restauration, sur sa vie sentimentale également. Mais voilà, en fait, l'ambiance était tellement particulière et stressante, etc. Les conditions de taf pas toujours optimales que un jour je me suis dit trop, c'est trop. J'ai claqué la porte. En fait, j'ai fait un abandon de poste. Donc j'ai recherché pendant 2 mois un emploi, quoi. Et je suis retourné dans le marketing, du coup.
Mais est-ce que Thibaut, cette expérience, même si elle a été ratée en pizzeria, est-ce que ça vous a rendu meilleur finalement?
Bah, ça m'a appris aussi que finalement on a souvent tendance à se dire est-ce que l'herbe elle est plus verte ailleurs ou pas,
à
remettre en question, ouais, pas forcément. Finalement, on a quand même, en tout cas moi je me suis rendu compte que voilà, enfin je crache pas sur l'expérience que j'ai vécue, je suis très content, mais voilà, on a quand même un confort de vie. En tout cas moi j'ai un confort de vie aujourd'hui que j'avais pas du tout en bossant en restauration. Une tranquillité aussi de se dire voilà, on a ses week-ends, le soir on rentre. On est posé.
Il y a le salaire qui tombe tout le temps.
Exactement, voilà. Donc c'est aussi un choix à prendre en compte. Enfin, c'est vraiment des critères à prendre en compte avant de faire le grand saut et de vouloir claquer la porte et changer de vie totalement.
Voilà. Et peut-être qu'un 15 jours, dans 10 ans, Thibaut, bah, vous referez une tentative. Voilà, mais peut-être ailleurs que dans une pizzeria. Merci Thibaut d'avoir été avec nous. On a également Cyril qui nous appelle de Nice et qui est en reconversion professionnelle. Bonjour Cyril.
Bonjour Estelle, bonjour Rémi, bonjour Fred et toute la team RMC.
Cyril, c'était quoi votre ancien job et c'est quoi votre job de reconversion?
Alors écoutez, 26 ans passés dans l'industrie du semi-conducteur.
D'accord.
Dans une PME en tant que chef de projet.
Mm-hmm.
Et puis, alors un burn-out après toutes ces années et... une envie depuis tout le temps de faire la cuisine. J'ai peut-être loupé ma vocation.
Ouais. C'est pas trop tard, manifestement.
Exactement. Donc, je me suis lancé. J'ai obtenu une reconversion professionnelle.
Ouais.
Et puis, je me suis lancé. Et là, j'attaque cette semaine en distanciel pour l'école du chef Étienne Best.
D'accord. Vous allez faire un CAP, en fait.
Un CAP de cuisine, tout à fait.
Génial, bah c'est super. Et donc, vous attaquez la semaine prochaine vos cours?
Alors, écoutez, pour l'instant, formation générale.
D'accord.
Et puis, donc, stage à l'appui, et puis toute team.
Et comment vous êtes rémunéré, Cyril?
Ah bah, écoutez, donc, je suis évidemment chez France Travail.
D'accord. Ok, Pôle emploi,
donc,
quoi.
Voilà, donc chômeur, et puis donc, j'ai bénéficié via le compte CPF.
Ah, le fameux, comme quoi ça sert à quelque chose. C'est vrai qu'on s'en doute parfois, mais on en doute parfois, mais voilà. Vous êtes le bon exemple, Cyril. Mais en tout cas, bon courage à vous, Cyril,
merci,
et bravo.
Pour terminer, vous me connaissez, Estelle et Rémi. Vous avez fait un débat sur le fromage il y a quelques mois, et je suis celui qui a eu du roquefort et du camembert dans son biberon. Rémi me reconnaîtra.
Eh ben, merci de nous avoir rappelé pour le coup sur.
Apparemment, ça mène à tout. Ça donne des forces. Parce qu'il est persévérant.
Il est persévérant, mais toi, il s'en souvient parce que maintenant, il veut être cuisinier. Merci Cyril, en tout cas,
merci
d'avoir été avec nous. Et puis on a Marc. Allez, on va terminer avec Marc de Mélan dans l'Isère. Lui aussi, il est en reconversion professionnelle. Bonjour Marc.
Bonjour Estelle, vous allez bien ?
Ben oui, et vous Marc ?
Ça va très bien. Écoutez, moi je fais une reconversion, ça faisait une dizaine d'années que je travaillais dans le commercial et j'ai eu une opportunité avec des amis de reprendre un chalet hôtel-restaurant en station. Donc c'est ce que je vais faire, voilà. Et j'ai tout, en fait je pense que au fond de moi c'est ce que je voulais faire depuis un moment, donc je me lance. Et après, derrière, ça va débloquer pas mal d'opportunités. Après, c'est un peu plus facile pour moi parce que je n'ai pas d'enfant, donc je peux changer assez facilement. Voilà.
Et là, en plus, c'est un projet avec des copains, quoi.
Oui, exactement. Alors, c'est un bon côté et mauvais côté, mais ça va être très sympa, je pense. C'était une vie en station que je connais déjà. Et donc, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, en fait. J'ai opté pour quelque chose qui me plaît vraiment.
Et il arrive quand, cet hôtel-restaurant ?
Eh ben, on ouvre pour la saison, hein, donc au 14 décembre, quand la station ouvre, on est ouvert.
Eh ben, allez-y, donnez-nous le nom et le nom de la station.
Alors, c'est à La Rosière et c'est l'Accroche-Cœur. C'est un hôtel-restaurant familial. On a une quarantaine de lits et on sert des petits déjeuners. On fait le midi et aussi le soir.
Et La Rosière, c'est une super station. Donc, bravo Marc, en tout cas pour ce changement de vie, parce que franchement, moi à chaque fois, je suis époustouflée parce que je me dis, faut pouvoir le faire, il faut sauter le pas. C'est pas toujours facile de sauter le pas. C'est quand même encore une fois un saut dans l'inconnu. Mais voilà, comme Marc, on y va, on fonce et puis on y croit. En fait, on croit en ses rêves et je trouve ça très très joli pour le coup. Merci Marc de nous avoir appelé et merci à Jean-Claude Delgène d'avoir été notre invité. On termine avec d'autres messages. Je crois que tu en as reçu beaucoup, Rémi, et le résultat de notre sondage.
Des témoignages, beaucoup, celui de Laurent par exemple. Moi aussi, je suis en train de terminer un bilan de compétences. J'ai travaillé longtemps dans le commerce de proximité. J'ai 45 ans et je vais commencer une formation de conducteur de tramway. Comme quoi, tu vois.
Il y a pénurie.
Il y a Lucas qui nous écrit, si Estelle est intéressée, je développe mon équipe commerciale dans l'immobilier en France comme à l'étranger. Et il a son numéro d'ailleurs.
Je vais prendre son numéro après en backup. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Rémi, on termine avec le sondage.
Est-ce que vous seriez prêt à changer de vie ? C'est le oui qui l'emporte pour 68% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux.
RMC, midi 15h.
Estelle midi.
Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC.
Mettre aux enfants tout leur attirail, porter leur ski, les accompagner aux cours, sans oublier la crème solaire. Oh, moi le ski, j'ai plus la force.
Même chez Bellambra.
Bon, allez, je vais bien essayer une dernière fois.
Ne profitez que du bon côté du ski avec nos clubs enfants de 4 mois à 17 ans. En ce moment, jusqu'à moins 20% sur votre séjour au ski sur bellambra.fr. Bellambra Club, au plus vrai des vacances.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Événement rugby à Toulon avec RMC. Samedi à 16h30, le Rugby Club Toulonnais affronte le Montpellier Hérault Rugby au Stade Mayol. Place en vente sur rctoulon.com. Toulon-Montpellier, samedi à 16h30 à Mayol avec RMC.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Rendez-vous tout à l'heure pour Apolline Matin dès 6h30 sur RMC. Toujours de l'info, toujours du débat, l'interview, le face-à-face pour cette année qui promet d'être particulièrement importante du point de vue politique. La période demande plus que jamais, non seulement de l'information, de la clarté, mais aussi de vous entendre, vous, et vous aurez toujours la parole. Vous êtes chez vous au 32-16 dans Apolline Matin. Alors je vous dis à tout à l'heure, 6h30 sur RMC.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle midi.
Estelle Denis.
Et on va tout de suite s'intéresser à la tendance du jour. C'est celle des applis pour se faire des amis. Et oui, ça existe. Bumble, Timeleft ou encore Disons Demain. Vous savez, c'est l'appli spécialisée dans les seniors. Eh bien, elle propose aujourd'hui, ces applis, un service pour aider leurs utilisateurs à sortir de la solitude. Ça peut paraître farfelu, Rémi, mais manifestement, le secteur est en plein boom, donc c'est que ça marche.
Oui, les géants du secteur, en fait, sont partis d'un constat. Les applications de rencontres pour trouver l'amour marquent le pas. Bumble a ainsi perdu plus d'un tiers de sa valeur en bourse au mois d'août dernier. Il faut donc se diversifier. Et le même Bumble a lancé une appli dédiée Bumble for Friends en France. Le site vous propose tout bonnement de trouver votre tribu. J'y suis allé ce matin. Match Group, la maison mère de Mythic et Tinder, s'y est également mis. En février dernier, aux États-Unis, a été lancé Yuzu à destination de la communauté asiatique. Première appli qui permet ouvertement de choisir entre les modes amoureux, le dating, et le mode amical. Depuis le 1er octobre dernier, il teste également un service consacré aux rencontres amicales sur Disons Demain, son service pour les seniors, avec une promesse: avoir plus de 50 ans signifie pas que vous devez dire adieu à votre vie sociale et amicale.
Encore heureux,
la solitude, nouveau marché porteur. D'après le dernier rapport de la Fondation de France, dans l'Hexagone en France, quelques 11 millions de personnes, soit 20% des plus de 15 ans, déclare se sentir seule.
Je suis terrifiée par ton papier, Rémi, je tiens à te le dire. Ouais. Alors, des applis pour se faire des amis, est-ce que vous trouvez ça génial ou gênant? Parce que je trouve ça très gênant, mais Amélie Rosic.
En fait, je trouve un peu les deux. Là, comme ça, je trouve ça un peu gênant. Je trouve ça même un peu triste. Et à la fois, je trouve ça quand même très intelligent. Ah. Parce que, et d'ailleurs, tu l'as dit, tu as parlé de solitude tout de suite, Rémi. En fait, on sait, et ça fait un peu vieille bique de dire ça, mais en fait, la société surconnectée et les réseaux sociaux, on le sait aujourd'hui, isolent les gens. En fait, créent de la solitude dans la vie réelle. Donc, pourquoi pas se servir de ces mêmes réseaux sociaux et de cette même surconnexion pour sortir de la solitude. Enfin, même des jeunes, très jeunes, disent qu'ils se sentent seuls. Et parce qu'en fait, à force d'être connecté et d'être sur son téléphone, bah en fait on sort moins, et voilà. Donc ça, c'est pour les jeunes. Pour les moins jeunes,
enfin, ils ont qu'à sortir. Excuse-moi, il y a des thés dansants pour les, enfin, peut-être pas 50 ans, mais
sérieuse,
il y a des guinguettes, il y a des trucs spéciaux. T'as des clubs de bridge, enfin t'as des trucs, tu sors quoi, au supermarché ou à la poste.
Pour les seniors,
beaucoup,
pour les seniors c'est peut-être plus facile, mais pour les plus jeunes, sincèrement, et je parle des jeunes,
t'as l'école quand t'es jeune. T'as la fac, t'as le boulot, enfin, je veux dire, tu restes pas chez toi, je comprends pas en fait. Les jeunes, on peut plus se faire d'amis maintenant, c'est nouveau ça. Non, mais enfin, c'est quand même terrible. Hein.
Je te dis, je trouve ça triste, mais si ça peut permettre de sortir certains de la solitude, en fait, je pense qu'ils ont développé un jeune qui a 20 ans.
Tu sors de la solitude en restant sur ton écran.
En étant sur ton écran et en rencontrant quelqu'un, ça va te forcer à organiser un rendez-vous. Parce que le principe du date, c'est ça, c'est de se dire, on commence dans la vie virtuelle et en fait, on se retrouve dans la vie réelle. Donc, c'est se forcer un peu. Un jeune qui a 18 ans aujourd'hui, je prends l'exemple de ma cousine, parce que c'est le seul jeune que je connais, c'est ma caution jeune autour de moi, donc désolée Agathe, mais. Elle a 18 ans, en fait, elle a grandi avec ça, elle a vécu avec ça. Et en fait, elle est capable, elle a des amis, mais sauf qu'en fait, elle est tout à fait capable de passer un week-end entier sur les réseaux sociaux à prendre des photos et à faire des stories, quoi.
On aura un jeune de 18 ans, justement, avec dans quelques instants, qui utilise ces applis, nous expliquera pourquoi moi aussi j'ai hâte. Jérôme Lavrieux, vous n'êtes pas seul, vous, pour le coup, mais est-ce que ça.
J'ai été longtemps.
Oui, bien sûr, mais vous ne l'êtes plus. Mais quand vous étiez seul, justement, est-ce que vous auriez pu utiliser ce type de rencontre pour avoir des amis? À moi, vous n'aviez plus d'amis, Jérôme.
Non, j'ai toujours eu des amis. Ah. Il y a un moment où ce n'était pas la mode d'être ami avec moi. Mais
c'est ça.
Les amis que j'avais avant, je les ai gardés, sans réseau social. Mais vous pouvez avoir des amis toute la journée et puis être extraordinairement seul le soir venu. Hein. Et ça ne remplace pas...
Mais là, dans ce cas, ce n'est pas un ami que tu cherches.
Ah, mais moi, je cherchais pas spécialement un ami et j'ai pas trouvé spécialement un ami. Et tout va bien. Je vous remercie de vos sollicitudes. Non, moi, je trouve que c'est quand même un aveu. Ça fait une dizaine d'années qu'on nous vend les réseaux amical, je sais pas, social. Donc, c'est ni des réseaux, ni des rencontres sociales. Et leur aveu, c'est que on nous a dit, on n'avait pas des followers. Hein. J'ai un ami sur Instagram, j'ai un ami sur Twitter, j'ai un ami sur je sais pas quel autre truc. J'ai pas des amis du tout. Rien du tout. Et maintenant, qu'ils nous ont vendu ça, ils ont gagné des milliards en nous faisant croire que devant notre écran se crée une communauté d'amis, ça marche plus parce que les gens sont moins cons que prévu en général.
Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas plus d'amis. Quoi.
Ben non. C'est comme dans les élections, les électeurs sont moins cons que les hommes politiques, ils veulent le croire. Donc à un moment, ils se réveillent. Et ben là, c'est pareil. Ils disent, ah, mais ils se réveillent. Ils sont vus qu'on les a arnaqués depuis 10 ans. On leur a pas créé des amis. Et donc, on va créer une application pour créer des vrais amis.
Si oui, mais en fait, c'est une application où après, à mon avis, le truc, c'est que tu rencontres des gens près de chez toi. Par exemple, imagine, t'es muté à Bordeaux, chez n'importe quoi. Donc, tu connais personne. Donc, en fait, et t'as pas d'enfants. Quand t'as des enfants, t'as au moins les parents à la sortie de l'école. T'as pas d'enfants. Donc, tu te dis, bon, bah, je vais sur cette appli. Je vais rencontrer des gens, je vais aller jouer au Scrabble un vendredi chez quelqu'un, et puis je vais rencontrer d'autres amis. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Il y a Jordi qui nous envoie un message sur Direct Studio qui témoigne exactement de ça.
Ben voilà.
Moi, j'ai une amie qui a créé une page Instagram sur ce concept et qui cartonne. Elle a déménagé à Cannes, elle ne connaissait personne, et pour se faire des amis, elle a créé ce compte et ça marche hyper bien.
Et elle est amie qu'avec des vieux, puisqu'elle est à Cannes.
Ben, c'est ça, elle essayait de trouver des jeunes à Cannes, et ben c'est pas si facile que ça.
Non, ça, c'est vrai.
Et ben tu vois. Donc, Daniel Riolo, ça vous inspire quoi, ces applis?
Quand j'ai découvert ça, évidemment, j'ai trouvé ça farfelu. Après, je me suis dit que si on pouvait remplir des cases sur un site pour trouver quelqu'un avec qui passer la soirée ou la nuit en cochant deux, trois bricoles...
Non, mais c'est amical, là.
Bien compris, Rémi. Qui transforme ça en point commun. Je me suis dit que un site ou une appli où on va cocher le travail qu'on fait, trois, quatre passions... Je pense que ça peut suffire à créer une amitié.
Quoi ?
Parce que de toute façon...
Tu pourrais trouver un ami comme
ça,
toi ?
Non, je ne dis pas que je pourrais. Mais je pense que si tu fais un vrai bilan sur toutes tes relations amicales, en fait, ça va se résumer très vite à « vous êtes dans le même secteur d'activité ».
Bah moi, non. Pas forcément.
Je suis d'accord.
Bah oui, bah non, mais c'est comme
pas,
ça.
Ne fais pas la rabat-joie. Je pense que 70-80% de tes amis sont dans le même milieu professionnel.
50.
Oh là là !
Mais 50 !
Elle est de mauvaise 50%.
Poche. Bah ouais.
Bon, alors après l'émission, on va se prendre une demi-heure, on va faire la liste et tu vas voir que tu mens.
Bon, bah on verra
sans
après.
Sans t'en rendre compte.
Bah, on verra, d'accord. Voilà, poursuis.
Bon, je pense que la plupart ont dans le milieu, allez, 70-80%, et puis après, 3-4 passions en commun. Et c'est ça qui rassemble à peu près chacun de nos groupes d'amis. Donc je me dis qu'aller sur un appli où tu remplis les cases et tout, je trouve ça farfelu, mais ça ne m'étonne pas que ça puisse marcher.
Mais moi, j'imagine le date derrière, quel gênant, ouais. Quand même.
Bonjour.
Au moment où bonjour, j'ai envie de faire j'ai envie d'être à ton ami. Enfin, c'est quand même un peu
et
gênant.
Et après, tu te fais une piqûre de sang et puis tu mets le.
Oui,
non,
bon. Tu te
On est avec Ethan, c'est notre jeune, justement, aujourd'hui, qu'on attendait. Il a 18 ans, Ethan, il nous appelle de Brest, il est étudiant. Bonjour, Ethan.
Bonjour tout le monde, comment allez-vous?
Bah, très bien, très bien. On n'est pas une voix de jeune, hein, Ethan. Vous êtes un vrai jeune?
Oui, je suis un vrai jeune. J'ai une heure, là.
Ah, bah écoutez, très bien, très bien. Non, je rigole, Ethan. Ethan, est-ce que vous fréquentez ce type d'appli?
Alors, ce type d'appli précisément, où le but c'est de rencontrer des amis, pas exactement, mais moi j'ai rencontré beaucoup d'amis à moi sur les réseaux sociaux, ce qui revient à peu près à la même chose d'un côté, parce que en soi, j'ai rencontré mon ami, un pote à moi, j'en ai beaucoup d'ailleurs, j'en ai autant, je pense, en ligne qu'en réel, sur un dessin animé qu'on regardait tous les deux, et puis ça fait maintenant 4 ans qu'on se connaît, on a découvert qu'on était supporters du PSG tous les deux, et ça marche très très bien. On s'est rencontrés 2 ans après qu'on s'est connus en 2020, on s'est rencontrés en 2022, et ça match très très bien. Et je trouve que c'est vraiment intéressant pour les gens qui sont un peu plus timides, qui ne veulent pas aller vers les autres et qui se font des fois réprimander pour ça. D'ailleurs, j'avais quelqu'un qui m'a raconté que dans la cour de récré, il y avait un surveillant qui lui avait dit que c'était scandaleux qu'il n'aille pas vers les autres, alors que
ça s'appelle
la timidité.
Quoi.
C'est une découverte incroyable, mais ça s'appelle la timidité. Et ça ne veut pas dire aussi que les autres seront ouverts à nous, même si on n'est pas timide, parce que moi, dans la cour de récré où j'étais, je marchais avec ma canne blanche. Je parlais pas de jeux vidéo parce que je ne peux pas y jouer et tout. Donc, est-ce que ça pousse les autres qui jouent beaucoup à Fortnite et tout à aller vers moi? Non, pas forcément, parce que ils se disent oh là là, on sait pas de quoi lui parler, il connaît pas ceci, il connaît pas cela. Donc, toi, t'as beau être ouvert aux autres, si les autres sont pas ouverts à toi, ça marche pas non plus.
Mais Ethan, vous êtes étudiant à la fac, donc j'imagine que vous rencontrez beaucoup de gens en physique, on va dire. Donc en fait, des possibilités de vous faire des amis en dehors des réseaux sociaux, ces possibilités, elles sont quand même nombreuses.
Ah oui, elles sont quand même nombreuses. Mais ce que je disais, c'est que si moi en soi là maintenant, je me sens de me faire des amis. Mais il y a une époque, non.
D'accord.
À une époque, c'était pas trop le cas. Et il y a plein de gens comme ça dans mon cas qui ont le même âge que moi, qui sont plus vieux, plus jeunes. Et c'est pareil, c'est la timidité, c'est le fait de se sentir plus en confiance derrière un écran pour dire des trucs utiles comme pour dire n'importe quoi sur Twitter aussi, ça marche dans les deux sens.
Non mais c'est, vous avez raison, effectivement. En tout cas, pour vous, ça a marché, Ethan. Donc bravo, merci beaucoup, Ethan, d'avoir été avec nous. Et ce qui est vrai, c'est que vous voyez des ados qui sont assez renfermés dans la vie de tous les jours, et tout d'un coup, vous les voyez jouer aux jeux vidéo, donc avec d'autres gens qui sont pas forcément des amis, avec un casque, et là, vous les voyez hyper heureux, etc., à discuter. Et c'est vrai que le contraste est assez étonnant. Mais ça veut dire quand même quelque chose de notre société, Jérôme Lavrieux, voilà, d'être obligé désormais de passer par un écran pour se faire des amis. Enfin, on se demande à un moment, on ne va pas tout faire via les écrans, quoi.
Ouais, mais il y a une époque où il n'y avait pas les écrans, mais tu rentrais à la table ronde, tu rentrais au Kiwanis, au Lyon's Club.
Au quoi?
Les clubs services.
Il y avait des annonces.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne
connais
pas.
Le Lyon's Club, tu ne connais pas.
Le Lyon's Club, oui, mais le Kiwanis, là.
Kiwanis, ça s'appelle. Ah bon. C'est des clubs services où tu rencontrais des gens. Souvent, c'était réservé aux mecs, en plus. Donc, c'était juste pour se faire des amis.
Le fauteuil club, le verre de cognac, la cigarette.
Non, je ne connais pas.
Les réseaux pour se faire des amis, t'as le club de sport où tu peux aller, t'as la sortie des écoles où t'es la maman ou le papa qui attend et qui discute avec les gens et après tu fais connaissance. Le boulot. Collège. Le collège, c'est un réseau pour se faire des amis aussi pour la vie.
Oh non, tu les oublies très vite. Enfin, je veux dire.
Mes amis, ceux qui font partie des 5 ou 6, j'en ai la moitié. Que j'ai connu au collège, ça fait très très longtemps, plus de 40 ans, et il se passe pas une semaine sans qu'on se voit ou qu'on se parle. C'est toujours rester des amis. Et ça, c'est avant l'invention des réseaux sociaux.
Manuel est avec nous, il nous appelle de Crépy-en-Valois, il est électricien. Bonjour. Emmanuel, il a un fils qui est adolescent. Bonjour Manuel.
Bonjour à tous. Oui, j'ai un fils qui a eu 15 ans et j'ai d'ailleurs aussi une fille qui est rentrée en 6e, donc qui a 11 ans. Mm-hmm. Et ces deux profils, on va dire, qui ont une vie sociale différente. Moi, ma fille, elle expose, elle va toujours chez des copines, elle reçoit des copines, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment de l'extra-scolaire et hors écran tant que faire se peut.
Super.
Mais mon fils, lui, il souffre de solitude sociale. Je le vois, on en parle régulièrement avec lui, on lui dit bah tiens, tu sors pas avec tes copains ce week-end, samedi, le dimanche, pendant les vacances. Et à chaque fois, il lance un petit peu une petite bouteille à la mer. Et alors soit tes copains ne répondent pas, soit ils répondent et ils se présentent, soit au ciné, soit au McDo, soit je ne sais où et ils sont pas là. Et finalement, ils s'aperçoivent qu'ils sont connectés sur les réseaux, sur les snaps, sur les jeux en ligne, etc. C'est affligeant parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est de sortir, de s'amuser. Il attend qu'une chose, c'est de passer son permis de conduire.
Mais ouais.
Et puis, je trouve ça d'une tristesse affligeante.
Mais vous avez raison.
Et voilà, donc il a du mal à se construire en dehors du bureau. Et du coup, il squatte mon bureau, voilà, pour être connecté, pour échanger avec ses camarades. Et du coup, il apprend à parler anglais. Et ça, c'est beau côté des choses, parce qu'il joue en ligne avec des étrangers. Mais bon, à part ça, physiquement. Alors, ça le motive d'autant plus de continuer son année d'athlétisme le samedi matin, voilà. Et le samedi matin, le problème, c'est que il a que des filles avec lui. C'est le seul garçon de 15 ans dans un groupe de 10 et il n'y a que des filles.
Il y en a qui se plaindraient pas. Hein.
Ouais, exactement. Et puis c'est déjà ça. Mais c'est vrai, vous avez raison, Manuel, que les mômes sont de plus en plus sur les écrans. Et c'est vrai qu'ils sortent plus comme nous. Alors après, ça fait un peu boomer de dire ça, mais
c'est le cas.
Ils sortent plus l'après-midi pour aller au ciné. De toute façon,
samedi après-midi, tu sortais avec les copines ou tes copains pour aller faire du shopping.
J'ai connu les mômes.
Même aller au parc, te balader et tout, aller faire du sport.
J'ai connu les booms.
Mais moi aussi, j'ai connu les booms dans les garages. Oh, c'était bien,
ça n'existe plus.
Je sais. Enfin, on n'appelle plus ça comme ça, mais on n'avait pas de pyjama party.
Non, mais même les soirées maison, ça existe de moins en moins parce que ça a dégénéré tout le temps.
Bah oui, c'est ça. Et puis les parents ne veulent pas. Rémi, nous allons voir le résultat du sondage, voir s'il est aussi marqué que le premier sondage.
Non, c'est pas si marqué. Des applis de rencontre pour se faire des amis. Est-ce que c'est génial ou est-ce que c'est gênant? Bon, c'est marqué, mais pas autant. C'est gênant quand même pour 70% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. Les grandes gueules d'RMC ont 20 ans.
Et il y a 20 ans, en 2004, à la radio, on écoutait ça. Écoutez.
écoutez bien RMC.
Dès que vous entendez un de ces titres de l'année 2004 sur RMC,
envoyez GG par SMS au 732-16.
Les grandes gueules vous offrent jusqu'à 5000 euros.
Bonjour, c'est Charles Magnin sur RMC.
RMC, Charles Matin.
On se retrouve tout à l'heure dès 5h en direct pour Charles Matin. Toute l'info, tous les sujets de votre quotidien avec toute la bande. Géraldine Demory, Manu Le Chypre, Amélie Rosy, Anthony Morel et vous, à tout moment, au 32-16. On se réveille tous ensemble pour toute l'actu et votre dose de bonne humeur. Rendez-vous dès 5h sur RMC.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Mais on va tout de suite s'intéresser à l'expérimentation du jour. Et c'est celle d'un collège rural près de Nantes qui a installé des toilettes mixtes au sein de son établissement, à la place des toilettes filles et des toilettes garçons. L'idée est d'améliorer la sécurité et la propreté de ces lieux, souvent boudés par les écoliers et de plus en plus d'écoles s'y mettent.
Oui, il y a un an et demi, dans Estelle Midi, justement, nous parlions du futur collège Jacques Prévert de Guingamp, qui était alors en cours de construction et où toutes les toilettes devaient être mixtes. Un an et demi plus tard, j'ai regardé, l'établissement a été inauguré à la dernière rentrée, avec ces fameuses toilettes mixtes filles-garçons, séparées cependant entre les 6e, 5e et les 4e, 3e, pour d'accord, garantir l'intimité des élèves. Les urinoirs ont été supprimés, remplacés par des cabines fermées du sol jusqu'au plafond. Les miroirs et les lavabos sont installés à l'extérieur des toilettes. Et ce n'est pas une première, elles existent déjà, ces toilettes, dans un certain nombre d'établissements scolaires, notamment dans des collèges de Gironde. En Seine-Saint-Denis, une expérimentation est toujours en cours au collège Albert Camus de Rosny-sous-Bois, où là aussi on sépare juste les petits, les 6e, 5e, des plus grands, les 4e, 3e. Objectif, notamment, désengorger les toilettes des filles, en réduisant les files d'attente pour elles. Et d'après les premiers résultats, ça marche. Les toilettes sont beaucoup moins dégradés, les enfants s'y sentent plus en sécurité et, pour un certain nombre d'entre eux, ne se retiennent plus d'aller aux toilettes.
Alors, faut-il installer des toilettes mixtes partout ? Emmanuel Dancourt, est-ce que vous, ça vous gênerait ?
Ah bah pas du tout, moi je suis à fond pour. Surtout que ça existe déjà dans des hôtels tout récents. Moi je suis à fond pour. D'abord parce que, rien que le fait, j'avoue que j'y avais pas pensé à désengorger les toilettes des filles, mais moi ça fait bien longtemps que j'ai rendu mixtes les toilettes des garçons depuis l'adolescence, parce que c'est toujours vide quand nous on fait des queues pas possibles.
Ça dépend où. Par exemple, quand tu vas jouer au poker ou quand tu vas dans un stade de foot, t'es bien contente qu'il y ait des toilettes filles.
Ah oui.
Eh ben oui, il y a personne.
Oui, d'accord. C'est l'inverse. Non, je suis pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, moi j'ai 3 enfants sur 4 qui n'allaient pas aux toilettes au collège, qui se retenaient parce que ils ne s'y sentaient pas bien. Et c'est compliqué pour le corps, hein, de se retenir toute une journée. Ça a des conséquences, hein. Et donc on en avait parlé et il me disait mais ce serait des toilettes mixtes, on préférerait, ce serait plus sécurisé. Et je voyais pas le lien. Il me dit mais si, parce que les pions ou les profs ou les personnes peuvent pas surveiller des fois tous les toilettes à la fois. Alors que si tu as des toilettes avec l'intimité est respectée, parce que Rémi l'a très bien expliqué, ce sont des cabines, il n'y a plus d'urinoir, etc. On se sent plus en sécurité, ça fait plus d'espace aussi pour les personnes à mobilité réduite. Ça veut dire qu'on peut permettre de réserver un toilette pour les fauteuils roulants notamment. Et de fait, c'est également plus inclusif. Et pour l'avoir testé, moi, je préfère largement en fait. Je veux dire, se laver les mains à côté d'un homme, enfin voilà, ça se fait, il y a pas de problème.
Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine intimité. Enfin, je sais pas, moi je préfère franchement être avec des mais je préfère être avec des filles. Enfin, je sais pas, voilà, moi ça me gêne pas. Mais après, ce qui me gêne moi, c'est quand t'arrives effectivement qu'il y a les toilettes hommes et femmes et que tu vois un homme qui sort de l'urinoir, quoi. C'est jamais.
Mais les urinoirs,
gêné.
On est d'accord,
voilà,
c'est des cabines, c'est des.
Oui, non mais ça très bien.
C'est des lavabos.
Mais souvent c'est les lieux où au collège tu discutais avec tes copines, t'as pas envie qu'il y ait un mec qui soit là, quoi. Il y a ça aussi, tu discutais de cabine à cabine, quoi. Tu vois, donc t'as pas envie forcément qu'il y ait un garçon. Enfin, de toute façon, c'est en train d'être expérimenté partout.
Moi j'ai cru comprendre que c'était Lyon, on était le moins longtemps possible. J'ai pas d'odorat, mais j'ai cru comprendre, ça sentait pas très bon et que c'était des lieux qu'on fuyait. Et il a été prouvé que les toilettes des garçons étaient plus propres en général que les toilettes des filles, alors qu'on a tendance à penser. Les études l'ont prouvé.
Je suis très étonnée.
Les toilettes des garçons sont plus souvent dégradées dans les collèges.
Elles sont plus propres, je parle de la propreté.
Toilettes mixtes ou toilettes genrées?
Pour répondre à cette question, il faudrait que je sois capable de mettre à la place d'un collégien, de le mettre dans la tête d'un collégien. Je l'ai été, mais j'arrive plus à me souvenir si ça aurait pu me gêner ou non. Moi, ce que j'ai en tête pour témoigner, c'est que sur le campus de Tolbiac, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dans le 13e arrondissement, depuis que je le connais, ce campus, donc depuis que j'y étais étudiant et maintenant prof, ça a toujours été des toilettes mixtes. J'ai toujours connu Tolbiac, toilette mixte, et du premier au 21e étage,
donc pas du
ça a toujours été mixte. Alors si, c'est des toilettes où il y a des cabines, alors des cabines fermées et totalement fermées pour garantir l'intimité, et à côté, séparées par une espèce de placo, des urinoirs. Mais par contre...
Bah oui, donc c'est pas mixte.
Bah c'est mixte dans le sens où...
A priori, quand tu rentres, je vais pas aller sur un urinoir, tu vois.
Mais enfin, quand tu rentres dans les toilettes, femme ou homme, tu te laves les mains avec des femmes et des hommes, c'est mixte. En fait, le lieu de toilette, il n'y a pas deux salles, deux ambiances, si je puis dire, deux salles pour les garçons, pour les filles. Ça a toujours été mixte. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a pas jamais eu de problème parce que c'est régulièrement nettoyé. Et là-dessus, la fac fait un effort à ce niveau-là. C'est régulièrement nettoyé. C'est un lieu universitaire, donc il n'y a personne qui vient pour picoler, pour faire autre chose, donc ne va pas dégrader les toilettes. Donc pour le supérieur, ça fonctionne et ça m'a jamais dérangé. Étudiant, prof, ça m'a jamais dérangé. Maintenant, le collégien de base, je sais pas, j'imagine naïvement le petit collégien qui a les hormones, qui le travaille en cinquième et qui va aller se mélanger dans les toilettes avec des filles.
Mais il pourra rien voir, parce que c'est les portes pleines.
Pas. Oui, mais bon, j'en sais rien. J'ai envie de dire oui, parce qu'à Tolbiac, ça fonctionne. Mais à Tolbiac, on est étudiants. Ils sont plus grands. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire oui pour les collégiens. Mais
les toilettes, puisque t'es enfermé dans ta cabine, enfin, qu'est-ce que ça risque?
Oui,
mais il y a aussi le truc, tu serais même dans les toilettes des filles, tu vois, au début, à l'arrivée des premières règles, par exemple, quand t'es au collège, t'as pas forcément envie d'en parler avec des garçons, en disant est-ce que t'as pas quelque
filles,
chose à me traiter.
Les hormones qui travaillent, qui titillent les garçons.
En fait, voilà.
Ouais, les prêts, ils se font avant.
Oui.
Les premières règles, en général, c'est avant d'aller aux toilettes, tu dis t'aurais pas un tampon, j'en ai pas.
Oui, mais en fait, bon, bref, c'est aussi un lieu où t'es avec tes copines, je sais pas, c'est comme ça pour les mecs, mais je dis pas que tu fais des réunions toilettes. Mais c'est un lieu qui.
Je faisais pas ça.
Non, mais qui peut être sécurisé parce que justement, t'es contre filles. Quoi, voilà. Fred Hermel.
J'hallucine, moi.
Pourquoi ?
Non, mais j'hallucine. Mais on a été collégiens, quand même. On sait comment ça se passe. Et puis, je suis un homme et je sais comment se comportent les hommes dans les toilettes. Enfin, les toilettes pour hommes, c'est dégueulasse.
On te dit que c'est plus propre chez les hommes que chez les femmes.
Et tu penses que beaucoup d'hommes relèvent la lunette quand ils font pipi debout ? Non, mais.
Justement, c'est une éducation.
Moment,
on fera comme chez nous, on la baissera pour vous. Qu'est-ce que je te dise?
Si j'étais une fille, une collégienne, mais je voudrais surtout pas aller dans des toilettes mixtes, quoi. C'est pareil dingue.
Si la porte est fermée.
Et puis pour désengorger, c'est simple. On fait plus de toilettes filles et moins de toilettes pour les garçons, c'est tout. Bah, c'est très facile. Parce que les filles passent.
Non, on y reste plus de temps parce qu'on nettoie.
Alors. Il se trouve que il y a des expériences qui ont été faites, notamment au Royaume-Uni, et des médecins avaient alerté sur l'augmentation d'infections urinaires chez les filles.
Parce qu'elles refusaient, elles ne voulaient plus, des gamines, qui
ne voulaient plus aller aux toilettes, parce qu'il y avait des garçons à côté. Et que ça les gênait de faire pipi et d'avoir un garçon à côté.
Oui, parce qu'aujourd'hui, t'as des portes qui sont pas pleines.
Exactement.
Mais maintenant, les portes seront pleines.
Ce que disent les résultats des premiers collèges, qui ça date d'il y a quelques années quand même, où il y a des toilettes mixtes, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les parents disent qu'il y a beaucoup moins de problèmes pour les filles, notamment de cystite.
Et au Québec, il y a quelques années d'avance sur nous.
Je te parle d'un article que j'ai eu dans The Guardian sur ce qui se passe en Angleterre. Ensuite, pourquoi les toilettes? Pourquoi est-ce qu'on voit en bas? C'est justement pour éviter les problèmes, pour qu'on voit un peu ce qui se passe s'il y a plusieurs, pour éviter la drogue, etc. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Vous savez d'où ça vient tout ça? C'est le lobby trans, en fait.
Mais n'importe.
Mais bien sûr que si.
Le lobby trans n'est pas du tout à l'origine de ça, mais a voté pour ce qu'il est. Non, mais ils ont voté pour, ils ont le droit.
Ne dis pas le lobby trans, ça n'existe pas.
Oui, le lobby trans n'existe pas. Tu as raison. Ils ont voté pour, et je comprends pourquoi, mais ils ne sont pas du tout à l'origine. Et le Québec, qui a quelques années d'avance sur nous sur le sujet, au contraire, ça se passe très bien. Les filles se sentent beaucoup plus en sécurité. Enfin, moi, ça m'a interpellée. 3 enfants sur 4 qui n'y vont pas parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. C'est quand même étonnant, quand même.
Ça me paraît dingue, un truc d'intimité, on mélange les garçons et les filles. Je ne comprends pas. Sûrement que je serais trop grave.
En tout cas, manifestement, l'expérience se passe plutôt bien. On a l'autre fille avec nous en ligne qui nous appelle de Bordeaux et qui est chef d'entreprise. Bonjour, l'autre fille.
Bonjour Estelle.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez voulu réagir sur ce débat. Est-ce qu'il faut installer des toilettes mixtes partout, ou est-ce qu'il faut laisser les toilettes filles et garçons?
Moi, non, il faut laisser un peu, surtout l'innocence et l'intimité de nos enfants. Ados, je parle. Majeurs, on sait se débrouiller. Le problème, c'est que là, on veut dégenrer les toilettes. C'est surtout ça le truc, à la base. Mais moi, je suis contre. J'ai des enfants aussi, j'en ai une qui a 15 ans. J'ai un gamin qui a 8 ans. Et lui, donc, il va dans les toilettes des garçons. Parce que c'est un garçon. Et les filles vont dans les toilettes des filles. C'est toujours... Faut pas oublier les choses. La
Mais on n'oublie pas les choses.
Que ma pensée, mais la pédophilie et toutes ces choses-là commencent très tôt.
Mais rien à voir. Mais non, mais l'autre fille, rien à voir. C'est dans un établissement scolaire. Donc c'est que des enfants qui y vont.
Au niveau scolaire, il s'est passé beaucoup de sujets. Vous-même, vous en avez parlé il y a quelques années. Il s'est passé beaucoup de choses dans les toilettes des enfants, dans les écoles et dans certaines écoles.
Mais non, mais alors là je bah, franchement, excusez-moi, l'autre fille. Mais je vois pas, comment je vois pas du tout. Non, mais l'autre fille, je vois pas du tout. Je veux dire, on n'a jamais fait de sujet sur sur moi, les toilettes, tout ce qui se passe dans les toilettes, quoi.
Vous ouvrez les journaux comme tout le monde. Mais moi, je vous explique. Quand un
enfant, j'ai pas entendu parler de fait divers dans les toilettes.
Les garçons, moi, je suis un garçon et je sais. Voilà, moi, j'étais bien éduqué, je sais me comporter avec les filles. Et ouais, c'est pas le cas de tous les enfants. Et vous savez, il suffit d'une fois, hein. Et c'est comme ça. Moi, je
travaille. Oui, mais les toilettes, là, regardez. Aujourd'hui, l'autre fille, les toilettes, ouais, quand vous allez dans les toilettes des filles, il y a 30 cm en bas qui est ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, un garçon met sa tête pour voir,
mais
il peut voir.
Les filles vont se dénoncer entre elles, Estelle.
Mais se dénoncer
c'est
quoi?
C'est pas le cas des garçons. S'il y a un garçon qui vient et qui met un téléphone sous le.
Mais ça peut, ça pourra plus arriver. Les portes seront pleines, l'autre fille, en fait, justement.
Les portes sont pleines, les portes sont pleines. C'est pas très bien pour l'école. Parce que l'école, elle est obligée d'avoir des portes. Non, pas pleine, justement. Ouais. Les portes doivent être ouvertes en cas de problème, en cas de malaise ça, dans les toilettes. C'est pour ça qu'aux États-Unis, vous parlez du Canada tout à l'heure, au Canada, les portes, elles ne sont pas pleines. Parce que s'il y a un souci, nous, aux États-Unis, ils arrivent à lier la vie de tout le monde.
Bah, s'ils y arrivent, on devrait pouvoir y arriver aussi, l'autre fille.
Non, mais c'est pas. Vous parlez de la porte pleine. Je reviens sur la porte pleine. C'est pas la porte pleine qui va régler le problème. C'est pas la porte pleine qui va régler le problème. C'est pas parce que vous mettez une porte pleine que oui.
Déjà, ça empêchera aux garçons de regarder.